Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Claude Dartois, qu'on connaît plus, vous et moi, comme Claude de Koh-Lanta. Le confinement a donné à l'émission de survie de TF1 une seconde jeunesse en termes d'audience et a fait exploser la notoriété de Claude, qui est un candidat emblématique du show. En trois participations, en 2010, 2012 et 2020, il a battu le record de victoires individuelles et est arrivé deux fois en finale, mais sans jamais réussir à gagner les 100 000 euros promis au vainqueur. Ce quadragénaire, pimpant et sportif, père de deux enfants, chauffeur de maître de profession, nous explique comment il s'est inscrit à Koh-Lanta alors qu'il ne connaissait pas du tout l'émission. Il nous raconte aussi sa passion pour le sport et pour le trail, ses expéditions jusqu'au sommet du Mont Blanc et du Kilimandjaro, mais aussi comment il vit cette toute nouvelle popularité, et notamment sur les réseaux sociaux. Vous allez vite entendre qu'entre le Claude qu'on voit à la télé et le Claude de la vraie vie, il y a assez peu de différence finalement. Un grand merci à lui pour cette discussion et j'espère que vous en apprendrez plus sur lui, que vous soyez ou pas fan de Koh-Lanta. J'en profite pour vous dire que si vous ne l'avez jamais écouté, j'ai interviewé le présentateur emblématique de l'émission, Denis Brognard, il y a quelques mois. Vous pourrez retrouver le lien de cet épisode dans les notes du podcast. Si vous aimez Histoire de succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site www.histoireavecunsdesucces.com. Ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast préférée pour un nouvel épisode d'Histoire de succès et je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Claude.
Je suis très heureux de t'avoir parce que je suis Koh-Lanta moi depuis que je suis, enfin depuis la première saison en fait, donc il y a très très longtemps. Je pense un peu comme toi, non ?
Moi non, moi tu vois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'étais pas un adepte de l'émission, je la suivais pas. J'avais juste vu la 2009 juste avant ma première participation en 2010.
Ah ouais.
Et ouais, c'était pas un programme que je connaissais. J'ai jamais été vraiment trop de télé non plus, donc. Et j'étais tombé dessus comme ça en 2009, j'avais accroché sur le programme et de fil en aiguille avec ma sœur, on en est venu à plaisanter. Elle m'a dit, écoute, t'as qu'à t'inscrire, c'est venu comme ça, tu vois. Et depuis 2009, après, je t'avoue, j'en ai vu quelques-unes des saisons, évidemment, mais plus souvent les retours avec les anciens que les nouvelles.
Ah oui, d'accord. Ok, tu regardes
pas. Non, je suis pas un grand assidu.
Ok. Non, parce que je vois que vous avez aussi tout un bail où vous vous retrouvez régulièrement tous les anciens candidats de Koh-Lanta, etc.
Ouais, j'y vais pas non plus. Moi, je vois. Non, c'est vrai qu'il y a des rassemblements. J'en ai fait un ou deux les premières années. J'ai fait 2010 et 2012. Et depuis, je suis pas retourné à un rassemblement, non, parce que déjà les dates correspondent pas. Et puis voilà, c'est jamais bien calé, mais je revois beaucoup d'anciens dans la région parisienne et sur Paris, évidemment.
Tu préfères revoir les potes individuellement plutôt que d'être dans la grande.
Non, c'est vrai que c'est cool, c'est bien les rassemblements, mais c'est vrai que ça, les dernières années, ça s'est pas prêté. Et voilà, après, c'est bien aussi.
Ce podcast s'appelle Histoire de succès. Bon, je pense comme plein de gens,
J'ai ma caméra parce que je veux pas te laisser avec ça quand même.
Ah, relou. Merci, ça me fait plaisir.
Ah, ça le fait pas, sinon, j'avoue, c'est. Moi, je te vois, si tu me vois pas, c'est pas cool.
C'est pas grave, tu sais, j'étais bien. Donc voilà, ce podcast s'appelle Histoire de succès. Et je pense, ouais, comme plein de gens, j'avais envie que tu gagnes, quoi, tu vois. Donc j'étais un peu le cœur serré quand t'as gagné. Je me suis dit, je voudrais avoir Claude si jamais il gagne Koh-Lanta, quoi, tu vois. Et j'ai vu dans le monde, ils t'ont appelé le Poulidor de Koh-Lanta.
Ouais.
T'avais vu ce truc ou pas?
Ouais, enfin, il y a pas que qui l'ont sorti, ça c'est sorti assez régulièrement, le fait de finir à chaque fois sur le podium, jamais gagnant, c'est un compliment pour moi parce que tout le monde ne peut pas se tarer d'être le Poulidor dans une discipline. Donc vu le palmarès qu'il a, j'en suis content. Moi, ça me fait plus sourire. Si vous voulez me laisser avec ça, c'est mal joué parce que justement, je le prends comme un compliment.
T'as bave du crapaud, t'as pas la blanche colombe, quoi. C'est un peu ça.
Ouais, non, mais moi, je suis en paix avec tout ça, donc j'ai aucun problème.
Ok. L'autre truc aussi de la spécificité de ce podcast, c'est qu'on revient un peu sur le parcours de mes invités. Et en fait, la première question que je pose souvent à mes invités, c'est en fait, à quoi ressemblait Claude quand il avait 7-8 ans?
À quoi je ressemblais quand j'avais 7-8 ans? 7-8 ans, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'à la maison, j'étais quelqu'un de très calme. Voilà, on avait une famille tranquille avec ma sœur et tout. On partait en vacances. Mon père travaillait, ma mère était au foyer. Voilà, une bonne éducation. J'avais fait le catéchisme. Enfin voilà, j'étais quelqu'un de rangé, de tranquille. J'étais assez turbulent à l'extérieur. Ouais. Mais à la maison, j'étais très calme. Voilà.
Turbulent dans quel sens?
Turbulent, j'étais toujours, toujours enclin à déconner avec les potes, à faire des petites bêtises et tout. J'étais plus quelqu'un qui menait que quelqu'un qui suivait. Donc, ouais. Voilà. Mais à la maison, j'avoue, j'étais par contre l'ange.
Ah ouais,
comme ça, on pouvait rien me reprocher. pas pris. À la maison, nickel. C'est pour ça que ma mère et tout le monde se posaient la question quand j'étais convoqué à l'école, parce que je ne comprenais pas qu'à la maison je puisse être si calme et qu'on puisse me reprocher d'être turbulent à l'extérieur.
Tu avais besoin d'extérioriser?
Probablement. Je sais pas, non. J'étais comme ça. Quand il n'y avait pas l'autorité parentale, j'étais plus libéré, probablement.
Ok. l'autre, il y a un événement aussi important, c'est que tu as perdu ta maman quand tu étais tout enfant, c'est ça? Tu avais
ouais,
9 ans?
Oui, j'avais 9 ans. Donc j'ai fait une rectification. C'est vrai que la dernière fois, j'ai dit qu'elle était morte à 33. Non, elle est morte à 30 ans, ma mère.
Ah, ouais.
Donc jeune. Donc oui, après, à partir de ce moment-là, ta vie a changé un peu. Hein, quand tu es un gamin, tu as du mal. C'est vrai que j'ai une petite période, voilà, entre mes 9 et mes 12 ans où j'ai pas trop de souvenirs, etc., parce que je pense que involontairement j'ai fait deuil de cette période. Mais apparemment, voilà, j'étais forcément très peiné et tout, mais après je me suis élevé un peu tout seul, j'ai fait mon truc. Mais
comment ça se passe ton adolescence alors, une fois que tu réussis enfin, je pense pas qu'on réussisse à dépasser le deuil de sa mère, jamais, mais
après on vit avec et tout. Ouais. Dès qu'on faisait des références toujours à ma mère, que ce soit quand t'es un peu gamin, que tu
ah ouais, les insultes à la con, ou...
Ouais, tout de suite, moi, j'étais bagarreur, donc tout de suite, je montais au créneau. Ça m'a forgé aussi, hein, voilà, hein, j'ai échangé quelques coups étant jeune. Mais à partir de là, après, t'apprends à vivre avec, c'est comme ça, hein, ça devient une force aussi. Et donc, j'ai toujours tout fait pour m'en sortir, pour qu'elle soit fière. Donc, je me suis servi comme d'une force.
Ok. Tu fais quoi après comme bac? Tu es au lycée et tout?
Je vais pas jusqu'au bac, moi.
Ah ouais, vas-y, explique.
J'ai fait un BEP, un CAP, hôtellerie restauration.
Ok.
Donc voilà, j'avais envie tout de suite de partir sur un métier manuel. J'avais envie de changement, travailler tôt aussi pour pouvoir partir aussi plus vite de chez moi, découvrir et voyager. Donc restauration, parce que j'avais mon oncle qui travaillait dans un très grand hôtel dans le sud de la France, et je savais qu'en restauration on trouve pas toujours du travail. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai commencé à travailler, donc en deuxième année de BEP, et j'ai pris goût, voilà, à gagner l'argent très rapidement. Et donc derrière, j'ai fait une mention complémentaire barman. J'ai pas fait le bac hôtelier, j'aurais pu, mais j'ai fait une mention complémentaire barman. Et après, je suis parti voilà, dans différentes destinations étrangères. J'étais en Espagne, à Majorque, au Baléares, tout ça. Je travaillais dans les grands hôtels, j'ai fait plein de trucs, voilà.
Jusqu'à quel âge à peu près, où t'étais,
j'ai fait ça, ouais, j'ai commencé à travailler, moi j'avais 17 ans, voilà, après 21 ans je suis parti engagé volontaire dans l'armée de l'air. Je suis pas resté longtemps parce que je gagnais mieux ma vie dans le civil, et puis voilà, ce que je voulais faire, ça correspondait pas avec ce qu'on m'autorisait à faire.
Tu disais que tu avais un peu de mal avec l'autorité aussi, d'une manière générale.
Ouais, donc je sais pas que j'avais de mal avec l'autorité. J'ai toujours aimé l'autorité, mais j'étais impatient d'obtenir ce que je voulais. Et l'armée, en l'occurrence, il fallait être beaucoup plus patient. Voilà, comme quand t'as pas comme je l'ai dit déjà, quand t'as pas tes parents qui sont là pour te tempérer ou t'expliquer, ou en tout cas t'orienter, tu prends une décision toi-même. Et des fois, quand t'es un gamin, tu prends pas les bonnes tout de suite. Au final, je le regrette pas, parce que ma vie elle est top aujourd'hui, je suis tranquille, puis c'est ce qui fait mon parcours. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais pris plus le temps, c'est clair.
Mon père, il avait un peu disparu de...
Ouais, mon père, c'était un travailleur, hein, c'est une ancienne génération. Mon père se levait tôt le matin, il a commencé à travailler à 13 ans. Tu vois, c'est pas la même génération. Donc lui, il ramenait l'argent au foyer, la nourriture. Et voilà, il n'avait pas un suivi sur ce que je faisais énorme. Il me faisait confiance, il savait que je me levais pour travailler. Voilà, et lui, ce qu'il voulait pas, c'est que quand il rentre, il me voyait affalé dans le canapé, à rien faire. Donc, tant que je travaillais, pour lui, ça lui convenait. Il cherchait pas non plus à savoir plus de ma vie.
Ok, d'accord. L'un des gros trucs, c'est que tu me disais que t'as fait ça jusqu'à peu près 25 ans, c'est ça, ou tu bougeais énormément, tu vivais.
J'ai travaillé dans plein d'hôtels, dans plein de restaurants, ce qui m'a apporté beaucoup d'expérience et beaucoup de rencontres. Et la vie, elle est faite de rencontres, et c'est pour ça que derrière, après, j'ai pu évoluer aussi, échanger de métier à plusieurs reprises, parce que j'ai des gens sur ma route qui m'ont fait confiance, qui ont vu en moi peut-être la possibilité de faire autre chose. Donc je m'étais fermé à rien. Moi, j'ai toujours dit, voilà, le partage et l'écoute, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui m'a beaucoup servi. Et toute cette période-là, elle était super, mais on travaillait, on sortait, on s'éclatait, c'était cool.
La jeunesse. Et tu.
Ah, grosse jeunesse.
Grosse jeunesse, j'imagine. Quand est-ce que tu deviens chauffeur-maître?
Je devais avoir 22 ans, 23 ans. Je commençais un été, j'étais au Baléares, je m'étais blessé au Baléares durant ma saison. J'étais revenu faire des examens plus poussés à Paris. Entre temps, j'avais rencontré des personnes dans un resto auquel je bossais qui m'avaient proposé justement de rentrer dans ce petit milieu de chauffeur privé pour travailler avec des familles étrangères. Et donc ils m'ont mis le pied à l'étrier, ça s'est bien passé, j'ai très vite bien gagné ma vie en très peu de temps. Je faisais ça en fait quand il y avait un surcroît d'activité l'été. Et puis l'hiver, je me remettais au chaud avec un petit CDD dans un resto que je connaissais ou dans les hôtels en intérim ou peu importe, pour garder une certaine liberté de mouvement au moment où on me proposait de travailler en tant que chauffeur. J'ai fait ça quelques années, donc c'était cool. Ça me permettait de partir 2 mois en vacances au Brésil, en Thaïlande, partout, parce que je gagnais suffisamment bien ma vie. Et puis au final, derrière, plus on avançait, plus je me faisais connaître, plus mon expérience de chauffeur s'est élargie. Et au final, je faisais plus que ça. L'hiver, je bossais même plus en restaurant, je faisais plus que de la conduite.
Ok. Et j'ai vu... De quoi ?
Il y avait un peu tout, il y avait du corporate, il y avait des missions un peu différentes, donc c'était cool.
D'accord, ok. J'ai vu aussi que tu faisais, t'es un peu un zinzin de tous les trails, etc. T'as toujours été, c'est quoi ton rapport, ton histoire par rapport au sport?
Et le sport, ça a toujours été pas un exutoire, mais ça a toujours été un moyen de me dépenser. Je suis quelqu'un de très tonique et j'ai besoin de jouer. Quand j'étais gauche, je sautais par-dessus les voitures, on a toujours fait un peu des trucs un peu bizarres. Et donc le sport, quel qu'il soit, j'ai toujours aimé, j'ai toujours grandi avec. Depuis tout petit, j'ai fait du sport, j'ai fait un peu de tout. Et donc le trail, il est venu un peu plus tard, parce que la course à pied, pour moi, c'était pas un sport jeune, c'était plus à chaque fois que je me déplaçais, je faisais en courant, mais c'était pas forcément j'avais pas l'idée d'en faire un sport à part entière. C'est plus un loisir et un plaisir. Et avec les années, c'est plus facile de sortir courir que de se mettre jouer au tennis à 30 ans ou quoi que ce soit. Donc je suis venu au sport un peu plus tard, à la course à pied, mais depuis une dizaine d'années maintenant, je cours assez régulièrement avec des challenges toujours différents. Alors je suis pas un acharné et un comme certains où c'est un besoin vital d'aller courir. Moi, je vais courir pour préparer un objectif.
OK.
Et donc je peux passer très bien 6 mois sans courir sans problème. Je peux passer 6 mois sans courir et après je vais remettre 2 mois, 3 mois à me préparer pour une course. Je cours pas 5 fois par semaine, 360 jours dans l'année. Donc, ça me permet de voyager, ça me permet de visiter des endroits magnifiques. Le bitume, j'ai couru. Déjà, j'ai fait des courses, les marathons, les semis, tout ça, les 10 km sur le bitume. Mais le trail, c'est différent parce que c'est plus nature, c'est plus sauvage, c'est plus, on est plus proches les uns des autres entre coureurs. Il y a une réelle atmosphère friendly autour de ça et c'est très sympa.
T'es allé où faire des trails dans des endroits particuliers?
J'ai déjà fait le marathon de l'Ortus vers le pic Saint-Loup. J'ai fait la Saint-Élion. J'ai fait le Cotrail par ici. Des trails un peu moins connus. Voilà, mais il y a plein de régions. Là, maintenant, j'essaie de faire une belle course par an, à augmenter à chaque fois la distance et le challenge, la difficulté en dénivelé. Mais après, je suis ouvert à tout. Hein, à partir du moment où c'est des beaux sentiers et que ça me permet de les découvrir, c'est cool. J'évite de faire plusieurs fois la même course parce que je me dis qu'il y en a tellement à faire avant de pouvoir refaire une course que je préfère privilégier une nouveauté.
Ok. Est-ce que tu as vu sur Netflix un documentaire sur l'ultra-marathon de Taré là, qui s'appelle Barclay Race, un truc comme ça?
Oui, je connais évidemment. Après, voilà, on a poussé les extrêmes dans plein. Il y a aussi le Tour des Géants qui est une course extraordinaire. La Barclays, c'est une course. Je pense que moi, celle-là, elle est un peu trop too much pour moi, dans le sens où quasiment tu sais que tu ne vas pas la finir. Voilà, elle est faite pour des coureurs passionnés qui courent tout le temps et qui vont chercher encore autre chose. Moi, ce n'est pas mon cas, donc ce n'est pas une course vers laquelle je me dirigerai. En plus de ça, la sélection, elle est énorme. Et puis, c'est trop difficile. Mais tellement, ça, pour moi, c'est l'extrême. Tu vois, et on n'est plus dans le... C'est plus une course pour moi, je ne sais même pas la définir en fait. C'est un peu l'ovni dans le trail. Il y en a certaines comme ça où pareil, tu tournes sur un quai, sur un kilomètre, tu fais des tours de 1 km, c'est celui qui en fait le plus, c'est celui qui reste le dernier debout qui gagne. Il y a plein de trucs maintenant qui sont ouvertes comme ça avec l'expansion du trail et de la course à pied. Moi, je reste probablement dans les classiques, dans les belles classiques. Il y en a tellement qu'avant de toutes les faire et d'aller dans des courses comme celle-là, il y a encore de quoi se nourrir.
Parce que tu dis l'extrême, mais enfin j'ai vu aussi que tu avais monté le Mont Blanc et enfin tu avais escaladé le Mont Blanc et le Kilimandjaro. C'est pas des petites ascensions là.
Ouais, c'est pas des petites ascensions, mais c'est pas non plus
l'Everest.
C'est pas l'Everest. Voilà. Après, il y en a d'autres bien avant qui sont beaucoup plus difficiles. Ben voilà, dans la chaîne d'Himalaya, il y a quelqu'un. Enfin, au Pakistan, t'en as plein des très difficiles aussi. Il y a plein de sommets. Alors l'Everest, c'est pas le plus dur, mais c'est le plus haut, mais c'est pas le plus dur. C'est le K2 le plus dur en termes de grimpe. Après, il y en a pour tout le monde. Moi, j'aime bien aussi varier. Là, j'ai fait ces deux-là parce que la première, le Mont Blanc, c'était pas très loin de chez moi. Ça reste sur le territoire français. Et puis, ça reste un sommet mythique. Mais tu vois, par exemple, je pense que le Cervin, il est même plus technique que le Mont Blanc à monter. Après, le Kilimandjaro, c'était l'Afrique. On rajoutait 1000 mètres de plus. On l'a fait en équipe avec un groupe. Donc, c'était cool. Il y en a plein d'autres qui me diraient, voilà, t'as le plus grand sommet, on pourrait parler des 7 summits, tu vois, la Concagua, t'en as plein, le Mont McKinley. Moi, j'ai envie de faire plein de trucs, mais tu peux pas tout faire, donc à un moment donné, faut choisir. Et c'est pas une fin en soi de tous les faire, mais ajouter toujours un sommet, ça reste cool aussi. C'est des beaux challenges.
Comment tu t'es retrouvé à faire des ascensions comme ça? Parce que pour le coup, ça.
Non, je cherchais un défi différent, je cherchais autre chose. Et puis, j'ai le fils d'une amie qui est guide de haute montagne. Elle était aspirant à l'époque où je l'ai monté, mais depuis, il a été diplômé. Ouais. Et donc, il m'a proposé d'encorder de le faire avec lui. J'ai pris un pote avec moi, donc on était deux, c'est le maximum qu'on puisse être sur la montée. Il me l'a proposé et ça s'est présenté comme ça et je me suis dit allez, pourquoi pas. Alors c'était un gros challenge quand même, parce que pour nous qui sommes des citadins, c'est pas évident non plus de se retrouver. Il y a quand même, tu vois, c'est moins haut par exemple que Kilimandjaro, mais pour moi c'était plus dur psychologiquement parce que tu passes par différents stades. T'as le vertige sur certaines parois qui sont compliquées, t'as des passages en crevasse quand même, t'es encordé les uns aux autres, donc s'il y en a un qui chute, il emmène les autres avec lui. Il y a des passages sur crête qui sont quand même délicats sur la fin. T'as quand même beaucoup de stades à appréhender pour quelqu'un qui a pas le pied alpin ou en tout cas qui vit pas en montagne. Et c'était un dépassement chaque jour et on a eu de la chance de le réussir et dans les bonnes conditions, donc ça c'était cool.
Et tu t'es retrouvé comme ça, en fait, t'avais déjà fait des ascensions auparavant?
Non, aucune. Non, j'avais, à part les stations de ski à 2004, j'avais pas été beaucoup plus haut, tu vois. Donc, ça s'est fait comme ça. J'ai dit, le Mont Blanc, ouais, t'es guide et tout, le Mont Blanc, il me dit, ouais, je peux t'y emmener. Et j'ai chauffé un pote, ça te dirait. Il m'a dit, ouais, on est un peu parti à fleur au fusil comme ça. Et puis, ça a été, une belle aventure avec, une belle réussite. Donc, je l'ai ramené avec moi sur le Kilimandjaro.
Putain,
il m'a dit stop, hein, c'est fini, j'ai trop galéré. Il m'a dit stop.
Et toi, t'as encore envie d'y retourner ou pas à l'occasion?
Ouais, moi, je veux bien en refaire un, encore un peu plus haut pour voir un peu plus. Mais On verra si c'est possible. Hein. Il y a la famille aussi qu'il faut pas mettre de côté entre les courses, les gros défis et tout. Je suis pas célibataire, donc c'est compliqué. Et
puis il y a pas aussi un côté un peu prendre des risques aujourd'hui. C'est peut-être plus compliqué pour toi à titre perso que.
Non, moi j'ai toujours aimé prendre des risques. C'est ce qui me fait me sentir vivant. Après, attends parce que je vais brancher l'ordi parce qu'apparemment il met mes batteries faibles.
Ah.
Non, il y a. Ouais, moi j'ai toujours. Enfin, le risque et les mises en danger, c'est ce qui te fait sentir vivant, comme j'ai dit. Et c'est toujours. Alors ouais, maintenant j'ai des enfants et tout, mais tu vois, je pars pas en me disant qu'il va m'arriver un truc. Donc pour moi, je le vois pas comme toi. Tu vois, je me dis pas que c'est un risque parce que j'essaie de justement mettre toutes les chances de mon côté pour que ce soit pas risqué.
J'avoue, vu comme ça, la vie elle est quand même plus simple.
Évidemment.
Bah oui. Pour revenir un peu à Koh-Lanta, tu disais que c'était une blague en fait à la base ta première. C'était quoi? C'était une blague? C'était vraiment ta.
Non, c'était pas une blague. J'étais chez ma sœur qui regarde pas du tout. Alors la télé encore moins les émissions, etc. Et puis moi, vu que j'avais suivi un petit peu avant de partir chez elle en vacances quelques épisodes, un soir je dis non mais ce soir j'ai envie de regarder et tout. Donc elle a regardé avec moi et puis j'étais en train de pas critiquer mais je dis allez fais comme ça, fais ceci, fais cela. Et elle m'a dit mais toi au lieu de parler t'as qu'à t'inscrire, vas-y. Et je dis écoute. Ma sœur, elle est littéraire, elle a une belle plume, elle me connaît bien. Je lui ai dit, écoute, elle est plus à même à me décrire. Moi, c'est compliqué de parler de soi. Donc, elle m'a dit, écoute, je lui ai dit, si tu me fais la lettre, vas-y, j'envoie un dossier. Donc, quelques jours après, mais ça y est, j'ai fait ta lettre. Elle était très belle, elle était très marrante, elle était cool. Puis, elle a retenu, tu vois, l'attention. Donc, c'est parti de là.
Waouh. Et donc, comment ça se passe le casting de Koh-Lanta? Il y a plein d'étapes, non?
Ouais, il y a plusieurs étapes. Alors en 2010, c'était peut-être différent d'aujourd'hui le casting, mais à l'époque, on avait donc la lettre, un premier appel téléphonique pour un peu voir ta façon de t'exprimer, tes motivations aussi. Donc ça c'était venu un peu après. Je me souviens, j'étais dans un restaurant, je travaillais et ils m'ont dit c'est la production de Koh-Lanta. Je dis ah, je suis super content de vous entendre. Et ils m'ont dit est-ce que tu pourrais venir nous rejoindre pour un visio en fait qu'on se voit face caméra et tout. Donc j'ai dit oui. Donc quelques jours après je suis parti faire un entretien face caméra. Là j'avais des casteurs qui étaient là qui ont repris un peu l'intitulé de malade de motivation, mes traits de caractère et puis voilà ils ont vu que je parlais suffisamment à l'aise, j'étais à l'aise, que j'avais du répondant. Je pense que ça a plu. Et après je leur avais dit par contre voilà si entre temps, ouais, j'ai eu quand même des tests physiques, j'ai eu la piscine, j'ai eu le psy, etc. Et à la fin, quand j'ai tout fini, on n'est plus, je pense, un petit groupe de 5 par profil à être sélectionné. Et là, ça va jouer un peu, bah, après, voilà, la production plus la chaîne qui met en avant un plus que l'autre. J'avais dit, moi, je ne peux pas attendre votre réponse parce que j'ai programmé un mois de vacances en Thaïlande. Je veux pas attendre que vous m'appeliez si vous m'appelez pas. Donc, j'ai dit, je partirai. Je me souviens, je suis en Thaïlande en train de manger et je dis à mon pote, ah tiens, en fait, j'ai pas vu mes mails depuis un moment. Ça fait 3-4 jours, il faut que j'aille les voir. Je regarde mes mails et là, je vois, Claude, on essaie de te joindre depuis 2 jours. Tu réponds pas. Si demain, on n'a pas de réponse de ta part, on prendra quelqu'un d'autre. Et donc là, j'ai envoyé un mail direct et puis j'ai courté mes vacances. Je suis rentré 2 jours après sur Paris et je partais après.
Waouh.
Tu vois, tout s'est fait un peu de manière, tu vois, sans, à chaque étape que je passais du casting, je me disais pas, c'est pas que j'y croyais de plus en plus, mais j'étais pas en mode, ouais, c'est sûr, je vais y arriver. Enfin, je l'ai passé, j'étais content de l'avoir passé et je me projetais pas non plus.
OK.
Donc, je pense que ça, c'est bien aussi de garder une certaine distance par rapport à ça.
Comment ça se passe ta première aventure donc c'était il y a 10 ans 2010 et notamment par rapport à celle que tu as vécue là aujourd'hui comment tu le vis toi avec le recul?
Toutes les aventures sont différentes déjà, c'est clair, par rapport déjà aux gens qui sont avec toi, par rapport à ta façon de voir les choses au moment où tu l'as fait, il y a le contexte aussi de l'aventure, le groupe, tout, comment ça se vit. Moi, je suis parti un peu la fleur au fusil, j'étais célibataire, j'ai pas d'enfant. Voilà, je suis parti en mode on doit survivre, je connaissais pas trop le contexte, mais voilà, je suis quelqu'un assez d'autoritaire aussi, je pense, j'aime bien mener, donc
mais en plus, tu avais pas vu le jeu.
Comment ?
Je disais, t'avais pas vu le jeu en plus, c'est-à-dire que tu connaissais.
Non, j'ai pas trop vu le jeu, mais j'ai fait une promesse. En fait, j'ai fait le voyage moi avec deux personnes. C'est deux seules que j'ai eu contact avant vraiment le début du jeu, c'était durant le trajet. Et c'est vrai que c'était Philippe et Coulé, et je leur avais dit dans l'avion, c'est clair, ça serait cool que on puisse avancer tous ensemble. Si je peux faire le maximum pour vous, je le ferai, c'est clair. Évidemment, tu te raccroches à quelque chose puisque c'est l'inconnu dans lequel tu vas. Et bah, ces deux personnes-là, c'était plus des inconnus puisque j'avais eu un premier contact avec eux en amont. Et donc, finalement, on est, tu vois, après, c'est équipe femme-homme. Donc, tout va bien. Je suis avec les deux hommes. Donc, tout c'est cool. On est une belle équipe. Au bout d'un moment, il mélange les équipes et moi, je me retrouve un peu isolé. Mes deux potes, ils sont en face. Je fais partie des plus vieux de la nouvelle équipe. Je prends l'équipe un peu en chef. Et on arrive quand même à bien martyriser l'équipe d'en face. On arrive en majorité. Donc, je pense que dans l'équipe, même tout le monde pense qu'on voilà, on va arriver dans les 6-7 derniers parce qu'on est majoritaire. Et finalement, moi, je mets tout le monde à la rue pour récupérer les deux qui sont en face. Et c'est ce qui me coûte la victoire finale parce que les gens m'en ont voulu d'avoir éliminé les uns et les autres. Mais tu vois, j'étais pas parti dans l'optique de me dire... moi, gagner, je m'en fichais. Je voulais aller au bout, en fait. Je voulais voir tous les jeux et je voulais pas avoir de regrets de me dire si j'avais su, j'aurais dû, ou comme beaucoup ont, tu vois, parce que justement, et j'ai toujours dit, voilà, si je me fais éliminer, le responsable, ce sera moi, ce sera pas les autres. Parce que j'aurais mal joué, j'aurais pas déjoué leur plan ou quoi que ce soit. Donc, quand tu prends ton aventure comme ça à bout de bras, forcément, tu fais un peu des dommages collatéraux sur le passage et c'est ce qui m'a valu ma défaite. Après 2012, je reviens, c'est différent. Je suis plus aguerri, je connais le jeu, je suis avec des anciens. Voilà, c'est pareil. On peut porter le chapeau d'une élimination de Théoura. Bref, tout ça. À la fin, on me désigne pas vainqueur non plus. Et après, cette année, je reviens, c'est différent parce que j'ai pas d'équipe, je marche un peu solo, j'ai pas à m'embrouiller ou à virer les gens, donc je suis mieux perçu, tu vois. Et c'est ça qui font que les aventures sont différentes. Tu peux les faire 50 fois, et je pense pas qu'il y en ait une qui va se ressembler.
Mais t'es à la fois mieux perçu et en même temps tu fous. Enfin, quand tu te retrouves en infériorité numérique, il y a toute une période. Et je pense que, enfin, je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais j'ai l'impression que t'as gagné une notoriété folle là pendant cette saison-là. Alors, je pense que globalement Koh Lanta a été énormément regardé avec le confinement, etc. Mais je pense que t'as animé le jeu. Je pense en plus tu l'avais pas forcément autant animé, même si c'était génial de te voir en 2010 et 2012. J'avais la sensation de te voir vraiment animer le jeu et de foutre un peu le bordel, en fait, de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, etc.
Ouais, c'est sûr. Et puis y a les gens se sont retrouvés un peu en moi dans cette période difficile, dans le dépassement et dans l'envie. Et on sait tous, il y en a beaucoup qui se sont dit ouais, finalement avoir un Claude avec soi, c'est cool, quoi. Tu vois, si on était en galère, ça serait bien de l'avoir. Tout le monde voulait être mon pote. Tu vois, donc c'est ça qui fait qu'en fait, moi, j'ai voulu défendre. Voilà, je suis arrivé en tant que héros. On m'a présenté avec un statut. J'ai voulu avancer avec ce statut. J'ai voulu préserver ce qui était pour moi aussi. À mes yeux, tout du moins, les plus méritants. Les gens ont ressenti ça aussi derrière leur écran. Et au final, ils ont tous voulu peut-être me sortir. Ils n'ont pas réussi. Et c'est ça que les gens ont aimé. Et au fur et à mesure que les autres étaient éliminés, tous les espoirs se sont reposés sur moi. Ça a créé aussi, voilà, je suis rentré un peu dans leur foyer par rapport à ça, parce que c'est clair que j'étais un personnage principal du jeu. Et puis le fait que je sois vrai, que je reste avec mes idées contre vents et marées, ça a plu aux gens et ça leur a redonné aussi l'envie de croire que tout est possible avec ses propres convictions. Donc ouais, c'est clair, cette année la même victoire, elle est là, en tout cas, c'est clair.
Ouais. T'as la sensation que est-ce que t'as la sensation qu'avec l'expérience t'as fini aussi par jouer un peu avec la caméra, notamment dans ces moments-là, tu sais, où tu fous un peu le bordel, tu sais, dans
pas trop,
dans le truc.
Pas trop. Non, j'ai toujours été comme ça, moi. Je marche au feeling et en fait voilà, sur la fin je suis détendu un peu plus, je gagne, je suis détaché, en fait. J'ai pas, tu vois, moi j'ai même gagné, ça n'a jamais été mon but d'aller chercher l'argent, tu vois. Mon but, c'était voilà, vraiment d'aller au bout à chaque fois du jeu. Après, adviendra ce qui adviendra. Tu vois, les gens, ils votent à part avec la rancœur ou ils votent avec leur conviction. Moi, ça m'est égal. Donc, je suis détaché dans ce jeu-là. Sur cette saison, je suis complètement détaché parce qu'au début, j'ai la pression, j'arrive pas à intégrer le jeu tout de suite. Je reste 9 jours un peu solo. L'aventure, elle prend, un mauvais virage pour moi. Je me dis, je suis revenu un peu pourquoi au final, parce que je joue pas en plus, donc je suis galère. Et derrière, j'arrive quand même à me dépatouiller. Finalement, le jeu, il tourne un peu plus, ça va un peu plus dans mon sens. Donc, j'arrive donc ça me détend, et en me détendant ben voilà je joue un peu plus, mais c'était pas voulu, c'était pas recherché non plus, parce que je suis pas quelqu'un qui calcule comme ça.
Oui, ça se sent. Bah tu, il y a quand même ce moment fou où moi j'ai en tête que Nawel, elle est en train de d'abandonner sur le, comment dire, pendant le
l'orientation.
L'orientation, voilà, elle est en train d'abandonner, et toi tu reviens, t'as trouvé ton poignard, et en fait tu lui dis non mais retourne-y, regarde c'est là-bas, etc. Et en fait au final bah elle finit par pas te choisir, tu vois, et tu te dis pas putain, quand même, t'as pas un non, petit bah... pincement au cœur à ce moment-là?
Non, pas du tout. Je veux dire, en plus, tu sais, j'ai aidé tout le monde, quoi que ce soit, parce que j'avais, malgré le fait que j'avais pas d'équipe, j'avais des bons rapports avec tout le monde. Mmh. Et ça s'est vu sur les jeux. Toi, les gens, ils m'encourageaient, même quand le parcours du combattant, les jeunes m'ont encouragé. Enfin, voilà, j'avais vraiment des bons rapports avec tout le monde. Donc, au final, pour moi, c'était naturel, de les aider dans le moment de galère. Donc, j'étais plus ennemi, là, j'étais plus, les jeunes contre moi ou quoi que ce soit. C'était, on est tous là, voilà, moi j'étais assez serein sur le fait que j'allais m'en sortir sur cette épreuve d'orientation que j'affectionne, et les voir tellement galérer, c'est ça qui m'a poussé à les aider. Après qu'elles me choisissent pas, elle a eu raison, parce que ça se trouve elle gagnait pas, donc je pense pas, moi j'en ai jamais voulu par rapport à ça, j'ai aucun problème avec ça, puisque Nawel c'est une personne que j'apprécie beaucoup, et j'ai apprécié, j'ai passé tu vois deux épreuves avec elle en binôme et tout, donc c'était tout naturel que j'allais pas la laisser s'effondrer maintenant.
Mais je veux dire, sur 20 saisons de Koh-Lanta, bon, tu les as pas regardées, mais en gros, c'est assez rare ce comportement altruiste, quoi. Ça s'est pas vu dans toutes les saisons, quoi.
Moi, c'est que je me sentais fort, alors aussi.
Je pense un peu, ouais.
Il y a de ça aussi. Quand tu te sens fort, et que tu te sens fort, tu te dis qu'il peut rien t'arriver. Ça doit jouer sur ton inconscient aussi, donc. Voilà, si j'avais été plus en stress ou quoi que ce soit, peut-être que ma réaction aurait été différente. Je sais pas. Tu peux toujours imaginer. Hein, c'est facile de se projeter. Maintenant, sur l'instant, il s'est passé ça, et c'est ce qu'il faut retenir.
Ok. On n'a pas parlé de Ninja Warrior, parce que tu t'es retrouvé dans Ninja Warrior aussi.
Ouais.
Cette histoire est folle, quoi.
Franchement, j'étais content de le faire. Dès que le jeu a démarré, la première année où il a démarré, je me suis dit, ah, ça, c'est un jeu. C'est vraiment ce que j'aimais. Franchement, quand j'étais gamin, c'est les trucs que je kiffais. Voilà. Faire des sauts, s'accrocher, etc. Et je dis, ça, c'est un jeu, voilà, qui pourrait me correspondre. Mais plus les saisons avançaient, moi, jamais j'étais appelé parce que j'avais pas une visibilité ou j'étais pas dans l'actualité. Donc, j'étais pas pris. J'avais postulé deux fois, j'avais pas été sélectionné.
Ah ouais, ok.
Ouais. Et puis voilà, puis un jour on me le propose, c'est pareil, on me l'a proposé tard un peu, c'est arrivé normalement, c'est vers le mois d'octobre, novembre que se font les sélections pour un tournage au mois de mars, mais moi j'ai été appelé au mois de décembre, fin décembre, et donc on m'a dit ouais ce sera avril, après on m'a dit finalement non ce sera mars, donc ça m'a réduit le temps d'entraînement, en plus je suis parti au Kilimanjaro, j'ai fait 9 jours au Kilimanjaro avant, enfin j'avais mon patron qui était là, quand il est là c'est compliqué de s'entraîner, et donc en fait je me suis pas autant entraîné ce que j'aurais voulu, c'est pour ça que je dis que je suis avec mes acquis, et j'ai tout de suite bien vu que ce serait limité à un moment donné, parce que Ninja, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste très sélectif, il faut avoir quand même un entraînement solide. Tous les mecs qui sont là, qui vont loin en tout cas, c'est des vrais athlètes, et genre ils enfilent pas les perles tous les jours, tu vois, donc ils s'entraînent, tu vois, sérieusement. Mais j'ai aimé parce que l'ambiance a été top, tous les compétiteurs entre eux, c'est une vraie compétition, tu vois, avec un gros challenge, mais la compétition elle se fait avec soi-même parce que t'es seul face à l'obstacle, et j'ai aimé le fait qu'on échange tous entre nous, tu vois, sur les passages, voilà, moi je suis passé là, c'était compliqué, et les gens parlent en fait, et il y avait vraiment une bonne ambiance, c'est vraiment une superbe expérience, j'ai vraiment aimé le faire.
Ok, bah tu finis quand même finaliste, hein, l'air de rien.
Ouais, ouais. Je pense que je vais là au maximum où je peux aller. Plus ça aurait été compliqué parce que j'avais pas le niveau clairement pour aller plus loin.
Un truc dont je voulais te parler aussi, c'est que j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où je fais parler des pères. Ouais. Donc j'aimerais bien te faire parler un petit peu parce que de tes deux mômes. Alors sans pour autant rentrer dans ta vie privée et tout, tu vois, mais parce que c'est l'un des trucs aussi qui revient très souvent dans cette saison par rapport effectivement aux deux dernières où t'étais pas papa, quoi. Qu'est-ce qui a changé toi dans ta vie de devenir papa?
Un garçon déjà entre mes premières saisons, il y a un garçon qui est arrivé qui a 5 ans maintenant. Voilà, je passe beaucoup de temps avec lui parce que j'ai beaucoup de temps par rapport à mon job. Donc ouais, on a une belle relation fusionnelle ensemble. Et puis un deuxième qui est arrivé là début janvier, que j'ai appris donc pendant l'aventure. Donc j'en ai deux garçons. Bah, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut avoir, tu vois. Ça réduit ton temps, c'est sûr, c'est clair, de liberté pour toi, mais voilà, c'est le bonheur de partager. Et comme j'ai déjà dit, la chambre de mes fils, c'est la pièce que je préfère dans la maison. Et voilà, donc c'est cool, j'adore.
Pourquoi c'est la pièce que tu préfères?
Parce que c'est là où on déconne, c'est là où on joue, on rigole. Les enfants, c'est l'innocence, tu vois. Et donc c'est bien. T'es le garant et t'es le gardien de leur innocence pendant un temps. Et donc c'est quelque chose qui me va beaucoup.
Ok. Comment tu te vois vivre avec eux en tant que père?
Le jour où ils vont commencer à me doubler à la course, ça va m'énerver, ça c'est sûr. Mais ils ont encore du taf, donc pour moi, je suis encore tranquille.
On va dire que tu as encore 8-10 ans devant toi, quoi.
Ouais, il est quand même bon. Le petit dernier, quand il a 5 ans, Andréa, il commence à bien courir. C'est cool. Après, moi, je veux juste qu'il se fasse plaisir, qu'il profite, voilà, qu'il ait suffisamment de cartes pour pouvoir grandir comme il faut et faire les choix qu'il veut. Donc, c'est top. En tout cas, je serai toujours l'accompagnant, j'espère, le plus longtemps possible pour l'aider.
Tu comptes les mettre à un sport?
Ils font du là le grand, il fait le petit fait rien vraiment à part sa tétine là, il déchire ce qu'il trouve, mais le grand il a fait un peu de judo, il a fait un peu de c'était plus de la découverte gymnastique, voilà, parce qu'il était petit. Mais l'année prochaine là, je pense je vais le mettre à la natation. Déjà, il va faire au moins 2 ans de natation, et puis après, en plus de ça, je l'emmènerai avec moi à l'escalade de temps en temps. On verra ce qu'il fera, mais oui, ils font du sport tous, c'est sûr. Après, qu'ils soient des champions ou pas, ça, je m'en fiche, mais il faut qu'ils fassent du sport.
Pourquoi t'as envie que Témo fasse du sport?
Parce que le sport, c'est dans le sport que t'apprends le dépassement, c'est à travers le sport que t'apprends à te faire mal, et c'est dans le sport que tu vas trouver de la satisfaction, justement, à te faire mal et à te dépasser. Et te prouver que t'es capable de faire des choses. Et hormis le sport, il y en a plein, mais le sport, c'est la plus simple, la plus facile et la plus rapide, en tout cas.
T'avais fait du sport co, toi?
Ouais, j'ai fait du rugby en collectif. J'étais justement le plus fin, le plus petit. Il fallait que je cours vite. mais c'était une bonne ambiance. Le rugby, c'était vraiment, voilà, une bonne mentalité. J'ai passé des magnifiques années. J'ai fait minime, j'ai fait cadet, minime première année, deuxième année, cadet première année, deuxième année, et après junior première année, je me suis arrêté, je me blessais trop, hein, ils m'ont trop cassé.
Oui.
J'ai fait du foot plus jeune, après j'ai fait du tennis, et moi j'ai fait un peu, j'étais un touche à tout, j'ai fait du karaté, je me suis jamais posé sur un seul sport, j'ai préféré toucher à tout, c'est pour ça que j'ai pas un sport de prédilection, et voilà.
Un profil un peu polyvalent.
Ouais, aujourd'hui peut-être que je suis polyvalent, c'est clair. Je suis pas un expert en un sport, mais je peux me débrouiller dans un peu tous les sports.
Et j'ai vu un article sur toi qui disait que tu attendais que Denis Brogniart prenne sa retraite pour prendre sa place. C'est un vrai truc?
Non, c'est pas un vrai truc. J'ai dit ça pour le. Non, j'ai dit, ouais, on déconne, j'ai dit ça en déconnant. Mais c'est clair que si un jour je devais choisir un programme à présenter, Koh-Lanta, c'est une aventure que j'aime, que je connais bien. Donc, si je devais. Parce que c'était ça, la vraie question, c'était est-ce que tu as un programme que tu aimerais présenter un jour? C'était parti de là. Mais évidemment que non. Je lui souhaite longue vie et longue présentation parce que c'est un programme qui est difficile de détacher de Denis.
Oui, ça c'est. Ouais, ça j'imagine que prendre la suite de Denis Brogniart, ça doit être quelque chose, quoi.
Ouais.
Est-ce que tu suis un peu Survivor, je me demandais?
J'ai commencé à regarder un peu là récemment. J'avais pas trop suivi. Oui, j'aime bien. C'est dynamique. C'est pas les mêmes jeux. C'est pas la même machine, je trouve. C'est encore différent, mais c'est divertissant. Ouais, je trouve ça
pour les gens qui savent pas, juste pour expliquer, Survivor, c'est le Koh-Lanta américain. D'ailleurs, je pense que Koh-Lanta est adapté de Survivor à la base.
Oui, c'est la version américaine Survivor qui est beaucoup plus ancienne que Koh-Lanta. Le concept reste à peu près le même, mais ils ont un axe beaucoup plus axé sur la stratégie que nous. Et ils n'ont pas la même somme non plus à gagner, donc c'est plus facile
c'est un million de dollars, hein.
Mettre un mec dehors pour 1 million que pour 100 000 aussi.
C'est sûr, et je pense que quand tu viens là, tu sais que tu viens pour 1 million de dollars, tu viens pas pour 100 000 aussi, ça change.
Ça change beaucoup, hein.
Ouais, ça j'imagine. Peut-être que, est-ce que tu aurais
jouer plus la gagne si c'était pour $1 million, tu penses, enfin, 1 million d'euros?
Ouais, mais après, dans la mentalité, c'est la même, tu vois. Moi, j'ai toujours considéré Koh-Lanta comme un jeu. Oui, c'est un jeu et je viens pour jouer et je dois survivre aux autres et c'est ce que je m'attelle à faire. Après, est-ce que t'es prêt à tout pour gagner? Avant peut-être, maintenant moins, parce que voilà, j'ai une responsabilité, j'ai par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille et tout. Je veux pas les mettre en porte-à-faux pour un jeu, surtout pour 100 000. Alors même si c'est un jeu, je suis conscient et qu'on peut tous pas mettre dans un jeu à partir du moment où on en est conscient que c'en est un et tout, mais c'est compliqué. Alors pour 1 million, ouais, c'est peut-être plus facile, tu vois, mais pas pour 100 000.
quel est le prix de ton éthique? C'est un peu ça la question, quoi.
Je ne sais pas.
Comment tu vis, toi, cette nouvelle notoriété là? Parce que effectivement, tu étais un peu connu là, mais j'ai un peu l'impression que tu es devenu tu vois, j'ai dit à des potes que je t'interviewais, c'était dis à Claude que je l'aime. Enfin, vraiment, c'était OK. Pour moi, à la base, le Koh-Lanta, c'était pas si connu que ça avant, quoi, tu vois. Alors, c'est un gros
Koh-Lanta de télé. Quand même, Koh-Lanta, ouais, il fédère quand même des millions de personnes. Ouais. Ça a baissé un peu ces dernières années, mais normal, il y avait la TNT qui était apparue, donc forcément la concurrence et l'offre étaient plus grandes, donc ça restait quand même assez logique. Ma nouvelle notoriété, je la vis comment? Bah, ça me permet, tu vois, là j'ai participé à Fort Boyard, donc ouais. c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps aussi. J'ai grandi avec cette émission-là. C'était un plaisir d'y aller, et grâce à l'exposition que j'ai eue et le bon retour, ça m'a ouvert les portes. Je prends ce qu'il y a à prendre en restant moi-même. Tu sais, j'ai 40 ans, je me suis élevé tout seul, j'ai pas attendu qu'on ouvre la porte pour rentrer. Donc voilà, tout ce que j'ai, je les ai obtenus parce que je suis allé les chercher. Aujourd'hui, si on m'amène des choses par rapport à ce que j'ai fait, qu'elles me correspondent, tant mieux. Mais je vais pas prendre la grosse tête pour autant, je vais pas oublier mes amis pour autant, je vais pas changer ma vie pour autant, tu vois. Donc je suis suffisamment, je pense, j'ai suffisamment de recul par rapport à ça pour l'assumer. Et comme j'ai dit, j'ai pas non plus inventé un vaccin, j'ai pas le prix Nobel, j'ai fait un jeu. Je suis content d'avoir apporté aux gens, si toutefois je leur ai apporté, comme ils me le disent. Je suis content qu'il y ait des bons retours pour ma famille et pour les gens qui sont proches de moi. Maintenant, si on m'invite sur des courses, ça m'éviterait de payer les dossards. Ça me va aussi.
Ouais.
voilà. Après, je vais pas bouder mon plaisir non plus, d'avoir des bons retours. Hein. C'est clair. Hein.
En fait, là, maintenant, je pense que ça va être compliqué pour quelqu'un d'autre d'aller chercher ton record d'épreuves, là, parce que t'as gagné 17 épreuves individuelles. Si demain, on te propose d'y retourner, t'y retournes, toi, à Koh-Lanta?
J'ai toujours dit que oui, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas, tu peux pas choisir d'y aller quand tu as envie d'y aller, en fait.
Ok. Et
tu peux choisir de monter ce que tu veux en montagne, tu peux choisir de traverser ce que tu veux à la nage, mais tu peux pas choisir d'aller à Koh-Lanta. Donc, quand on te le propose, c'est difficile de le refuser. Après, c'est clair que je dois mettre dans la balance tout ce qu'il y a autour, ma vie de famille, mon travail, évidemment, mon état dans lequel je serai au moment où on le proposera. Et évidemment, voilà, est-ce que je suis challenger? Alors, quand on me dit oui, tu aurais pu ça, pas t'es gagné, c'est pas ça qui me rebute, en fait. Parce que je m'en fous de pas gagner ou alors de me dire oui, bah, t'as fait moins bien. Ouais, mais j'ai déjà bien accompli, j'ai déjà mes trois aventures sont totalement pleines, donc c'est pas ça qui me rébuterait, en tout cas. Je te dis, c'est à voir quand est-ce qu'on me le propose, le challenge et tout. Mais
t'aurais pas l'impression d'avoir déjà un peu une redite, quoi?
Si, sûrement. Après, ouais, je veux pas dire que j'y retournerai pas, parce que on a toujours l'envie d'y retourner. Maintenant, est-ce que ça se fera? Je sais pas, mais c'est pas impossible, en tout cas. Que déjà, je te dirais pas catégoriquement que j'y retournerai jamais, en tout cas.
Ok. En tout cas, merci beaucoup, Claude, pour ce moment.
Merci à toi d'avoir pris le temps aussi.
Avec grand plaisir.
C'est quoi, c'était Mademoiselle?
Ouais, c'est ça.
Ok, top. Bon, bah écoute, j'espère que, chers auditeurs, ça vous aura plu d'entendre un peu plus de choses sur moi.
Un grand merci à toi, Claude, c'était cool.
Merci à vous tous, je t'embrasse en tout cas, merci beaucoup.
Merci bien, salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We
want to invite you to listen to our show. Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too,
a section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.